Bonjour tout le monde. Bienvenue au Corporate Chat Podcast. Vos animateurs aujourd'hui sont Émile Journet et moi-même, Cédric Nadeau. Émile et moi étudions tous deux en finance à l'Université McGill. Merci à Red Bull de commanditer le podcast. Notre invité aujourd'hui est Mia Morissette, vice-présidente principale chez Innovia Capital. Mia s'est jointe à la firme en 2018 et se concentre sur les opportunités d'investissement en phase de croissance en Amérique du Nord. Elle se spécialise notamment dans les entreprises de logiciels de productivité SaaS B2B, ainsi que dans le domaine du voyage et de l'hôtellerie. Avant de rejoindre l'équipe d'Innovia, elle a travaillé en private equity chez PSP Investissement, ainsi qu'en consulting chez Roland Berger. Elle a aussi obtenu son diplôme de l'Université McGill. Dans cet épisode, Mia nous parle de la façon dont la pandémie a affecté le secteur du growth equity, des facteurs qui différencient une bonne entreprise SaaS des autres, et de plusieurs autres sujets fort intéressants. Sans plus attendre, voici notre conversation avec Mia Morissette.
Bonjour Mia, on est super heureux de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Ben oui, fait que, merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau aujourd'hui. On va commencer tout de suite. On est intéressé d'apprendre un peu plus sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui t'a mené aujourd'hui dans un rôle en Venture Capital?
Oui, absolument. Écoute, ça n'était absolument pas prévu. C'est la première chose que je vais dire. Fait que moi, quand j'ai fini McGill, je savais que je voulais aller dans un domaine avec des chiffres, mais je savais que je ne voulais pas faire de banking. Ma première porte a été en fait tout ce qui était consulting. Fait que j'ai fait du management consulting pendant 4 ans. Où est-ce que tu sais, t'en apprends sur plein d'industries, t'apprends à construire des modèles opérationnels. J'ai adoré mon expérience. Puis en fait, je me suis retrouvée dans la pratique de due diligence, que dans le fond, toutes les firmes de private equity appelaient notre firme pour faire des due diligence sur certaines compagnies qu'ils voulaient acheter. Puis souvent, c'est les projets que les consultants détestent le plus. Moi, c'est ce que j'adorais faire le plus. Fait qu'ils m'ont transféré au bureau de Paris pour faire juste des due diligence pendant un an de temps. Puis en fait, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup mieux ça, avoir tout le mindset investor. À l'époque, je ne savais pas du tout que VC, ça existait. Donc, j'ai décidé de faire le transfert pour aller en pure private equity buyout chez PSP. Pour justement apprendre un peu ce rôle d'investisseur. Là. Fait que là, j'ai fait PSP pendant 3 ans pour vraiment comprendre tout le rôle, ça veut dire quoi être un investisseur, comprendre tout ce qui était au niveau du diligence. Puis, honnêtement, j'adorais mon expérience chez PSP. Super belle équipe, super beau mandat. Mais à l'époque, j'ai entendu parler de la bibitte Innovia. Puis, je comprenais pas trop c'était quoi. Puis finalement, un de mes amis s'est retrouvé chez Innovia Capital, puis il était à la caisse de dépôt dans le même rôle que moi je faisais à PSP. Puis j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu as changé? Tu avais tellement une belle job à la caisse, pourquoi est-ce que tu vas chez une affaire qui s'appelle Innovia? Puis là, il m'a expliqué, il m'a amené déjeuner, puis là, il m'a expliqué en fait tout le mandat d'Innovia qui était, tu sais, un des premiers fonds de Venture Capital au Canada, focusé plus early stage. Puis à l'époque, quand on se parlait, Innovia venait juste de lancer un growth strategy. Puis en fait, quand tu y penses, c'était vraiment le juste milieu en ce que j'aimais faire, dans le sens des transactions qui ressemblent un peu plus proche du private equity que du pure VC, mais avec un mandat qui ressemble beaucoup plus à un mandat de consulting en fait, parce que la façon qu'on travaille avec des compagnies, c'est beaucoup plus proche, versus des fonds de pension, que c'est une approche un peu plus passive. Tu sais, j'avais commencé ce déjeuner-là à être un peu sceptique de son move de changer chez Innovia, mais à la fin, je me suis dit « Oh wow! » Super job, t'es vraiment chanceux. Fait que là, quand il m'a appelé 2-3 mois plus tard pour dire « Hey, finalement, je vais ouvrir les bureaux de Londres d'Innovia. Ils ont besoin d'un professionnel au mien pour Montréal. T'es-tu intéressé? » Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire la navette, de faire le saut pour aller en Growth Capital. Je sais pas si je serais une bonne VC investor vraiment early stage, mais Growth, c'était vraiment un parfait fit pour moi. Puis ça fait maintenant aujourd'hui 6 ans.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir la partie plus SaaS et aussi le domaine de l'hôtellerie pour le growth equity?
Fait que, écoute, tout ce qui est SaaS, je dirais que c'est un peu le bread and butter de Innovia de focuser tout ce qui est plateforme SaaS. Pourquoi, en anglais, to travel and hospitality, c'est un domaine assez niche et je me fais beaucoup poser la question. En fait, en consulting, c'est un peu là que j'ai pris la piqûre. Je travaillais sous le Global Head of Travel Hospitality pour le monde du conseil de travail pour des compagnies aériennes, des hôtels, puis j'ai juste adoré ce domaine-là, tant au point de vue consommateur, mais aussi c'est un business que je comprends. et que je pense que c'est un secteur énorme et qui est encore très old school, la façon qu'ils utilisent tout ce qui est technologie. Puis il y a une énorme opportunité de vraiment pousser tout ce qui est c'est technologie disruptive. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de me focusser sur ce domaine-là. Puis en fait, c'est drôle parce que Montréal, je sais pas si c'est parce qu'on est comme la grappe d'aviation qui est basée à Montréal, mais il y a une très forte proportion d'entrepreneurs à succès en travel hospitality. T'sais, on pense à Hopper, Plus Grade, BuzzBud. C'est toutes des compagnies que t'en parles aux Américains, ils ne savent même pas que ça vient de Montréal. Tellement c'est devenu, c'est comme il y a un gros buzz international. Donc, on a quand même un super beau pool de compagnies travel hospitality tech à Montréal.
Est-ce que c'est un secteur que tu as découvert plutôt dans ta carrière ou tu as vraiment développé ton expertise en arrivant ici chez Innovia?
Fait que j'avais commencé à la développer quand j'étais en consulting, la plupart de mes mandats, c'était avec des compagnies hôtelières ou d'aviation. Puis, lorsque j'ai compris qu'à Innovia, il y avait un début d'expertise, on avait déjà vendu une compagnie qui s'appelle Luxury Retreat à Airbnb, on était déjà investisseur dans BuzzBud, on avait des relations avec les Hopper, j'ai décidé de vraiment focusser là-dessus pour développer cette expertise-là parce que je voyais qu'il y avait un gros potentiel un peu partout au Canada et aux États-Unis pour bâtir cette pratique-là.
Ok, super. Fait que tu as vu qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Est-ce que tu dirais que tes expériences en consulting et en private equity ont contribué à ton succès dans ton rôle en ce moment?
Oui, je te dirais que c'est vraiment une bonne balance parce que, tu sais, quand je suis arrivée pour bâtir l'équipe de growth de Innovia, ils avaient besoin d'un skill set de comprendre un peu c'est quoi tous les processus du diligence plus late stage et ce que je faisais en private equity. Fait que là-dessus, c'est sûr, j'ai pu amener des nouvelles façons de faire à l'équipe. Puis après ça, c'est consulting, une des connaissances clés que tu apprends des expertises clés, c'est comment est-ce que tu arrives à analyser un tas de données, mais te focusser pour être très un esprit de synthèse pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est vraiment important puis te concentrer là-dessus. Puis en VC, en fait, c'est drôle. Soit tu as énormément de données ou soit tu n'en as pas du tout, mais tu dois quand même te faire, voici les 3-4 hypothèses clés, puis je dois me débrouiller de façon assez créative pour essayer de trouver les data qui peuvent backer les 3-4 hypothèses clés que j'ai. Puis consulting te donne vraiment un bon coaching là, à ce niveau-là.
Super intéressant. Puis sachant tout ça, est-ce que tu passerais par le même chemin pour aller en VC ou, sachant que tu veux faire du VC, tu aurais pris peut-être une autre route?
J'aurais définitivement fait du consulting parce que je trouve que c'est une super belle école pratique après l'école théorique que j'avais fait à l'école. Private equity, je pense que c'est une super belle école aussi. Par contre, si Innovia avait déjà ce mandat de growth equity, puis ce mandat de puis qu'il y avait, peut-être que j'aurais fait le tremplin directement. À voir.
Super. Tu sais, on entend souvent qu'un quotidien en VC, c'est vraiment différent qu'un quotidien en finance plus typique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de à quoi ressemble ton quotidien en tant que principal en growth equity chez Innovia?
Ouais. Ça va être un peu la réponse fichée qu'il n'y a jamais de journée standard. Mais, tu sais, ce qui est intéressant de notre domaine, c'est que, faut qu'on cherche nos propres opportunités. Donc ça demande vraiment d'être très proactif et de bâtir des relations très tôt. Tu sais, le titre chez nous n'a pas vraiment d'importance. Ça. C'est à toi, peu importe ton titre, d'aller bâtir tes propres relations, avoir tes propres thèses, tes propres convictions pour amener des opportunités qui pourraient devenir des fits pour soit le fond de Early ou Growth de Innovia. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, qui représente 30-40% d'un day-to-day chez Innovia de faire ce sourcing qu'on appelle ça. Après ça, tout ce qui est due diligence, c'est évidemment lorsqu'il y a une opportunité qui coche les premières cases, de faire un vrai secteur, de comprendre tout ce qui se passe au niveau de la thèse du marché, des compétiteurs, le financial, history, comment on voit la business going forward avec quel type d'exit qu'on voit. Là-dessus, lorsqu'il y a un live deal qu'on appelle, c'est vraiment un bon 30-40% de ton temps aussi. Mais je te dirais, ce qui fait aussi un peu notre force, c'est aussi l'aspect qu'on veut vraiment soutenir une compagnie en portefeuille. Puis pour nous, c'est important que la compagnie nous parle en fait, pas juste au board, mais vraiment en dehors des boards. C'est là que tu bâtis une vraie relation avec tes compagnies en portefeuille pour les aider à scaler. Ce qui représente probablement un autre 30-40%, ça dépend des semaines. Fait que c'est tout ce qui est sourcing, due deal, puis portfolio support. C'est vraiment les trois gros piliers d'un day-to-day.
On va pivoter vers notre segment de marché.
Oui.
Il y a beaucoup d'entreprises SaaS qui se créent, surtout dans la dernière décennie. Qu'est-ce qui différencie
une bonne compagnie SaaS, en particulier avec des clients corporatifs, par rapport à une qui réussit moins bien?
Ben écoute, vous pouvez voir tout niveau métrique et compagnie. Je pense que ce que vous intéresse, c'est plus voir en background quels sont les patterns qu'on peut voir qui font qu'une compagnie réussit ou pas. Est-ce qu'ils sont en train de résoudre un vrai problème ou un nice to have? Ça, c'est une question qui a l'air assez simple, mais en fait, toutes les compagnies qui résoutent un nice to have puis qu'il n'y a pas un vrai ROI, tu vas le voir rapidement au niveau product market fit. Donc, ça, c'est une chose. Après ça, un deuxième point, c'est être très focus. Le nombre de compagnies qu'on voit qui veulent faire 40 affaires pour arriver à ça, souvent, malheureusement, c'est une question d'optimisation des ressources, ça ne marchera pas. Donc, c'est une compagnie, voici mes 2-3 objectifs et je focus là-dessus et je suis vraiment là-dessus. Puis après ça, tu peux double down. Donc, le focus est super important. Puis ça revient à un autre point, d'avoir une vision très claire. Où est-ce que tu veux t'en aller? Tu vas avoir ta vision 5-10 ans, puis tu vas avoir ton next 24 months. Mais d'avoir cette vision-là, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer une équipe et garder ton équipe pour arriver à ces objectifs-là, qui vient au point de l'équipe, tu sais. L'équipe, c'est vraiment, surtout au niveau early stage, là, je te dirais, il y a peu de métriques à analyser là, quand on regarde des dossiers de early stage. Donc, comprendre quel type de problème ils sont en train de résoudre. Est-ce qu'ils focusent sur les 1 ou 2, 3 key milestones? Et est-ce qu'on a l'équipe qu'on veut backer? C'est souvent le type de due diligence que l'équipe va faire au niveau early stage.
Est-ce que tu peux nous partager un exemple d'une compagnie comme ça qui est vraiment réussie dans ce domaine-là?
Ben écoute, je pense qu'on a plusieurs exemples quand tu regardes notre portfolio, mais tu vois, un exemple à la... En fait, Hopper, c'est un bon exemple assez contradictoire dans le sens que ça a pris du temps avant qu'il ait vraiment réussi à trouver son market fit, mais ça, c'est un où est-ce que soit Fred Allon, le CEO, a trouvé le problème dans l'industrie, c'est que il n'y a personne qui comprend vraiment comment en fait monétiser toutes les data qui sont données par les airlines. Tous les voyageurs ont, tu sais, tous les produits d'assurance sont extrêmement restrictifs. Les voyageurs veulent trouver une façon beaucoup plus facile de changer, d'être flexible au niveau de leur voyagement. Puis la COVID a montré exactement ça, que hey, moi quand je veux voyager, je veux être sûr d'avoir une façon flexible de changer mes horaires. Puis ils ont vraiment réussi à leverager leurs data. Fait ils ont réussi à trouver un product market fit, ça a pris du temps, mais parce qu'on avait justement confiance en l'équipe et l'entrepreneur, on savait que c'était la bonne personne et on savait qu'il y avait un vrai problème à résoudre. Donc, ça a pris du temps avant de trouver le product market fit, mais c'est un entrepreneur qu'on a décidé de suivre et backer. On a dit non au premier round d'investissement. Par contre, on a continué à bâtir cette relation parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose sur cet entrepreneur-là qui allait fonctionner éventuellement. Puis, dès qu'il a réussi à lancer ses produits 3 mois avant la COVID, donc ça a explosé. Après 3 mois, par contre, la compagnie est revenue avec 0 de revenus. Est-ce qu'on veut continuer à faire un investissement quand on n'a aucune idée de savoir qu'est-ce qui va arriver avec le marché? Mais on a juste un 3 mois track record. Parce qu'on avait cette confiance avec l'entrepreneur, on a décidé de quand même faire le leap of faith, comme on dirait. Donc ça, c'est un exemple d'une compagnie qui a réussi à bien décoller.
Parlant de la COVID et des entreprises dans le domaine de l'hôtellerie et du voyage, comment est-ce que la pandémie a affecté les compagnies dans cette industrie-là, autant à court terme, mais aussi jusqu'à maintenant, à moyen terme?
Bien, je pense que premièrement, juste pour venir une anecdote, donc c'est ça, moi je suis allée en comité le 20 mars pour présenter 2 dossiers, Sander et Hopper, pour des compagnies qu'on savait qu'elles n'allaient vraiment pas avoir de revenus pendant un bon bout. Donc, c'était des comités assez entertaining et rock'n'roll, je dirais. Mais tu sais, en fait, ce que la COVID a fait, c'est que permis de voir des nouvelles tendances chez les travelers. J'ai parlé de tout ce qui est flexibilité, ça c'est quelque chose qui continue à être aujourd'hui. Tout ce qui est la façon d'avoir des modèles hybrides de voyage, genre leisure, on appelle business et leisure. Tout ce qui est d'être en fait beaucoup plus efficace au niveau des coûts. Tu vois, on a une compagnie qui s'appelle Super.com. Pendant la COVID, ils ont réussi à devenir profitables malgré la baisse importante des revenus. Donc, tout ce qui est efficiency est devenu beaucoup plus fort. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est ça, il y a plusieurs des... Tu sais, si tu penses aux hôtels, comment est-ce que tu improves ton RevPAR yield, devenu vraiment top of mind pour augmenter les taux d'occupation. Donc, comment est-ce que je passe de mes Excel à la mitaine pour booker mes réservations pour les plus petits hôtels à vraiment avoir une vraie solution sophistiquée qui me permet d'optimiser. On a vu beaucoup plus de tech spending pour ce type de logiciel-là qui permet d'optimiser les marges qui sont assez faibles pour certains de ces groupes en hôtellerie.
OK, super. Donc, ce que je comprends, il y a beaucoup de compagnies qui ont pu réussir à augmenter leur marge. À quel point est-ce que Innovia a participé ou à quel point est-ce qu'Innovia peut aider une entreprise justement dans une crise? Est-ce que vous avez joué un gros rôle là-dedans?
Oui. Donc, COVID, tu sais, ça, comment est-ce que tu arrives à supporter tes équipes ou est-ce que tu sais pas combien de temps il va y avoir très peu de revenus? Mais tu veux quand même avoir une équipe qui survit pour devenir encore plus fort lorsqu'on passe à travers la crise. Puis c'est pour ça, en fait, quand tu sais, Hoppers, si je reprends cet exemple-là, on a décidé de leur donner une ronde de financement en plein durant COVID pour justement qu'ils puissent garder une équipe en place, focusser sur continuer à développer leurs produits pour être vraiment top of the game pour que lorsque le volume, les demandes commencent à revenir, ils ont vraiment le meilleur produit sur le marché. Donc, tu vois, ça a été être sûr que, dans le fond, les compagnies ont un compte de banque qui leur permet de traverser à travers la crise. Ça, c'est un peu, tu sais, une des premières étapes. Deuxième, c'est comment est-ce que tu gardes tes équipes motivées? Comment est-ce que tu réussis à bâtir tes équipes de management malgré ce type de défi-là? Donc, tout ce qui est gouvernance, bâtir des équipes exécutives, bâtir des plans de communication aussi lorsqu'il y a des restructurations qui sont faites. Comment est-ce que tu arrives à bien communiquer avec les équipes pour être sûr de garder quand même la motivation en place. Donc ça, c'est une autre expertise qu'on a pas mal aidé. Donc ça, c'est deux exemples.
OK. Est-ce qu'on pourrait dire que la pandémie a causé des bonnes opportunités d'investissement, un peu comme on a vu dans les marchés publics, où la vision long terme de ces entreprises-là fait en sorte qu'il y a peut-être eu un moins gros discount par rapport à un environnement normal?
En fait, le travel revenge est arrivé assez vite, je dirais. Donc, en 2021, comme la plupart des autres secteurs, le domaine du hospitality a quand même été avec des valorisations assez élevées. Par contre, je pense à ce moment-là que tu regardes quelle compagnie que oui, des valorisations élevées, mais que tu sais qu'il y a un produit unique qui va pouvoir être non commodité dans les prochaines années, qu'on a passé plus de temps là-dessus. Par contre, là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tout avec la nouvelle wave de Generative AI, c'est sûr que le domaine du Travel Hospitality va pouvoir leverager pas mal ces nouvelles technologies-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde assez attentivement.
On entend souvent parler du VC, que le processus d'analyse et des opportunités d'investissement est différent. C'est quoi les différences entre le processus d'analyse entre le VC classique et le growth equity?
Oui. Donc, VC, comme je disais un peu plus tôt, tu n'as pas beaucoup de données analysées pour garder. Hein? Donc, c'est sûr que tu comprends vraiment c'est quoi l'opportunité de marché, puis est-ce qu'on solve un vrai problème et pas juste un nice to have. Comme je disais, ça, c'est une question assez importante. L'équipe, évidemment. Product market fit, même si tu n'as pas nécessairement un 4 ans de métrique financière, tu es vraiment capable de comprendre l'attraction, que ce soit au niveau des users, des downloads, du web traffic. Donc, essayer de comprendre du data pour « Hey, j'ai vraiment quelque chose qui peut hook les gens sur ce nouveau produit-là » est super important. Fait que ça, c'est souvent ce qui est vraiment important pour nous, c'est équipe, opportunité de marché, puis product market fit. Au niveau growth, pour nous, ça, c'est ça, pour moi, faut que ça soit absolument fait. Les points où est-ce qu'on va continuer à analyser, c'est comprendre go-to-market. Souvent, à ce stade-là, ils sont en train de raffiner leur go-to-market. Où est-ce que j'ai mes quelques gros logos. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à avoir un playbook où est-ce que c'est une machine repeatable pour aller gagner des nouveaux clients? Donc ça va être un gros point d'analyse du diligence qu'on va faire. Ensuite, c'est bâtir une compagnie de 1 à 10 millions de revenus, c'est une chose. De 10 à 100 millions de revenus, c'est une autre game. Est-ce que j'ai des units économiques qui peuvent donner profitable growth? Donc, c'est-à-dire, si la compagnie décide de devenir profitable avec les units économiques qu'elle a, est-ce qu'elle peut devenir profitable du jour au lendemain? Fait que ça, comprendre un peu ce scalability motion, ça va être quelque chose de très important. Puis après ça ressemble à quoi l'exit de cette compagnie-là? T'sais, venture peut avoir un super beau retour avec une compagnie qui se vend à 500 millions en exit. Tu fais un return qui peut retourner le fond. En growth, malheureusement, si mon point d'entrée est plus autour de 300-400, une exit à 500 millions, j'arrive pas à faire mon return. Donc moi, j'ai vraiment besoin de croire souvent au billion dollar story. C'est une compagnie qui va être achetée, mais est-ce qu'il y a assez d'acheteurs qui peuvent payer ce type de valorisation-là? Est-ce que c'est une compagnie qui peut aller au marché public? Donc, toute la question du type de exit est aussi super importante en growth.
OK. Comme justement les entreprises ont peut-être des enjeux différents dans une phase plus avancée, est-ce que l'entrepreneur est encore aussi important que, par exemple, dans les premières rondes d'investissement, ou est-ce qu'on dit que l'entrepreneur est souvent la principale raison d'investir dans une entreprise?
L'équipe demeure extrêmement importante. Par contre, c'est sûr qu'on est conscient que souvent, tu sais, quand tu passes de la série A, mettons, à la série D, tu n'auras peut-être pas exactement la même équipe de direction. Probablement, le founder, c'est quelqu'un qu'on va... le founder CEO, c'est quelqu'un qui va demeurer. Si jamais il y a une transition qui se fait, ça va vraiment être préparé à l'avance. Mais souvent, c'est là qu'on voit où est-ce que l'équipe de départ de la série A et peut-être pas l'équipe qui va être à la série D pour l'amener à hyperscale, puis c'est correct. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est assez équipé pour aider justement à trouver des bons talents qui ont déjà vu des scalable stories. Donc, est-ce que c'est un red flag si on sait qu'un VP finance sera peut-être pas le CFO dans 10 ans? Non, puis c'est quelque chose qu'on va vous aider à gérer pendant due diligence.
Super, vraiment intéressant. On va passer maintenant vers notre segment plus mentorship. Quel parcours est-ce que tu recommanderais à un étudiant qui est au bac qui souhaite faire carrière dans le VC ou dans le capital risque ou dans le growth equity?
La beauté de notre modèle, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir le parcours typique de 2 ans d'investment banking, puis après ça, tu fais ton comme 2 ans de private equity. T'sais, on est beaucoup plus flexible sur le type de profil qui peut être intéressant pour aller en VC. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est avoir le côté business, c'est super important. Fait que tu sais, souvent on a des ingénieurs qui appliquent, mais avoir le côté business pour ces profils-là va être super important, pas juste le côté technique. Tandis que le côté technique, c'est quelque chose que tu peux apprendre. C'est quoi un SaaS model que tu peux apprendre rapidement en VC? Fait que je dirais côté business, tu peux l'avoir en consulting, tu peux l'avoir dans des rôles de corp dev, tu peux l'avoir dans des rôles, oui, de banking aussi. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons que tu peux avoir ce business acumen, d'avoir un peu vécu du real life et pas juste le business de l'école. Après ça, c'est sûr qu'avoir quelques connaissances, ça veut dire quoi le rôle d'investissement? Ça veut dire quoi faire une due diligence commerciale, due diligence financière, être à l'aise avec Excel modeling? C'est quelque chose, encore une fois, que tu n'es pas obligé d'aller en banking nécessairement, mais c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Fait que ça, je dirais, c'est comme les deux traits, c'est avoir un business sense, être à l'aise à rouler tout ce qui est analyse financière, mais également aussi, je pense que tout ce qui est curiosité puis relationship building, ça, c'est un peu plus du soft skills. Tu vas pas vraiment apprendre ça dans n'importe quel rôle, ça fait partie de ta personnalité. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime comprendre, apprendre à aller chercher les gens, passer sur ton réseau, curieux sur telle nouvelle technologie, tel nouvel secteur? Ça, c'est quelque chose qui va être aussi important qu'on va tester en entrevue.
Il y a beaucoup de domaines de la finance où faire un stage est l'une des meilleures façons d'entrer dans le domaine. Est-ce que c'est la même chose pour le venture capital?
Bien, c'est sûr, c'est la meilleure façon qu'on puisse un peu apprendre à connaître les gens puis leur donner un peu un aperçu aussi de est-ce que eux ils aiment ça vraiment le VC growth, parce que tu sais, c'est une bibitte que ça a l'air cool, mais est-ce que en vrai c'est pas pour tout le monde. C'est un milieu un peu tu dois être organisé dans le chaos, comment je décris. Donc c'est pas pour tout le monde. Donc absolument, tu sais, nous c'est pour ça qu'on a bâti ce programme de stage il y a environ 4-5 ans, pour justement nous, ça nous permet de bâtir ces relations-là avec les talents pour plus tard, pour être des fits, pour venir en termes d'analyste. Puis également pour eux, comprendre un peu ça veut dire quoi, cette drôle de bibitte de VC. Donc juste, on recrute probablement, on a probablement une quinzaine de stagiaires par année.
On va finir avec cette question-là. Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui débute en VC?
J'ai parlé de « relationship building ». Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important assez tôt dans la carrière, de comprendre, de se bâtir sur relation avec les personnes qui pourraient être pertinentes dans ce que tu veux t'en aller plus tard. Je dirais la plupart des recrues qu'on a fait chez Innovia, ça n'a pas été vraiment fait par un processus formel, ça a vraiment plus été fait par tout ce qui était des relations qui ont été bâties dans le passé par des stages ou autres. Fait que relationship building, curiosité, c'est vraiment deux traits que, comme je te dis, c'est moins facile à apprendre à l'école, mais que j'essaierai de développer par soi-même.
Écoute, Mia, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui au podcast. On a vraiment appris beaucoup, puis merci de t'avoir prêté au jeu.
Bon, ben merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous en avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, LinkedIn et Instagram. Bonne journée et à la prochaine.
Le seul but de ce podcast est d'éduquer et d'informer nos auditeurs. Il ne remplace en aucun cas le conseil professionnel d'experts qualifiés. Ce podcast est fourni dans l'entente qu'il ne constitue pas un conseil financier ou autre professionnel. Nous vous encourageons plutôt à discuter de vos options de carrière ainsi que de vos engagements financiers avec des professionnels spécialisés en gestion patrimoine, valeur immobilière et gestion d'actifs. Les informations, opinions et recommandations présentées dans ce podcast sont uniquement pour l'information générale.